7h15, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire des concessions pour maintenir notre emploi en mode télétravail?
Parce que la nature humaine est ainsi faite. Je t'explique un peu. Dans un monde régulier, celui qu'on a connu avant, ce qu'on appellera un jour le monde d'avant, les salaires étaient définis en fonction d'une chose, l'offre et la demande. Et ça, c'est influencé par où tu vis. Par exemple, sauf dans la fonction publique, si tu fais un travail à Montréal, tu risques d'être mieux rémunéré qu'ailleurs parce que ça coûte plus cher vivre à Montréal. C'est un exemple. Et là, du jour au lendemain, les employeurs, pour s'ajuster, ont renvoyé des gens chez eux et ont dit « Allez chez vous, on vous paye le même salaire, mais travaillez de la maison. » Et ça, c'était un mode urgence. Maintenant, il y a des employeurs qui vont commencer à se dire les choses suivantes. Attends une minute, là. La prime au coût de la vie qu'on donnait avec nos employés en télétravail, si nos anciens, on ne va rien faire, nos nouveaux, on va y penser deux fois, on va commencer à peut-être avoir un salaire en mode télétravail et en mode bureau, donc avoir deux échelons salariaux, ou bien, carrément, diviser les emplois. C'est-à-dire, les emplois en télétravail, on enlève une portion du revenu en se disant, ben, l'employé n'a pas les allers-retours à faire, les lunchs, les coûts, et donc, implicitement, il doit accepter dans sa réflexion une baisse de revenus.
Mais là, j'ai de la misère à tuer, par exemple.
Ah, vas-y.
Parce que, un, c'est... D'abord, pour les déplacements vers le travail, là, l'employeur ne me paye pas.
Mais il te paye implicitement, ben, parce que tu acceptes de faire un revenu en fonction de ce qu'on te demande. Hein? C'est off-demande.
Non, mais c'est parce que tant qu'à ça, il y en a qui habitent Rosemont, puis il y en a d'autres qui habitent Laval, puis que c'est le même salaire pour les deux.
Oui, mais les deux vont au bureau. Et le gars qui habite à Rosemont, ou la dame qui habite à Laval, ou vice-versa, peut se faire dire, ben tu payes plus cher ton immobilisation ou ta voiture. Non, mais là, on enlève ça.
Oui, mais
Mark Zuckerberg en a parlé, même sur Facebook, il dit, les gens qui sont à l'extérieur du cadre normal devront s'attendre à ce que le marché se régularise.
Ben là, mais attends un peu, là. Je fais le même travail en principe. Deuxièmement, quand je suis chez moi, là, j'ai des dépenses reliées à ça. Tu vas me dire moins qu'avant, mais je sais pas, moi, je paye mon Internet, je paye l'électricité, je paye...
Mais ça peut être amorti. Ah non, mais tu vas être surpris. Bah, regarde, regardons ça froidement. Disons que je suis un employeur qui met une nouvelle annonce d'un emploi. Et je dis, hey, ça peut se faire de la maison. Voici la paye. Je baisse pas le salaire des employés actuels, mais les nouveaux qui entrent, parce que tu n'es pas dans une convention collective nécessairement, je vous dis, écoute, peut-être que je vais vous offrir moins implicitement ou peut-être que les augmentations de salaire vont être moins élevées en ayant, en sous-entendu, le fait que dire « t'apprécies les conditions que je t'offre », c'est off-demande, il n'y a pas de lunch gratuit, comme on dit en anglais. Et donc, je suis persuadé, et ça c'est une opinion bien personnelle, mais si on regarde ce que les employeurs sont en train de réfléchir, c'est de dire « les employés ayant moins de coûts, moins d'inconfort et plus d'avantages à la maison accepteront probablement des salaires moins élevés parfois. » Je ne suis pas ici pour me faire des amis ou des ennemis. Je suis ici pour
Mais en même temps, c'est les emplois physiques qui ne peuvent se faire à distance devraient être payés plus cher encore.
Bien, mais c'est justement, ça c'est l'autre point. Est-ce qu'un emploi équivalent, mais avec déplacement, va maintenant devoir comporter une prime parce qu'il y a de nouveaux employeurs avec des offres de télétravail permanent qui vont venir dire, ben nous, on a un modèle plus flexible sur les coûts, on n'a pas de bureau, on a des gens chez eux, mais ils ont des réseaux sécurisés. Et là, on tombe dans les choses qui ne sont pas des choses salariales.
Je te donne
un exemple. Les employeurs vont commencer à dire, nous, on offre des accès VPN ou des modules sécurisés que tu transportes partout dans le monde, Internet ou sans fil. Je t'offre un mobilier de bureau. Je t'offre du matériel informatique. Je t'offre un remboursement de facture d'Internet haute vitesse à la maison. Mais voici, la compensation salariale sera ceci. Et même le fisc va peut-être s'adapter parce que là, tu vas avoir des télétravailleurs à 30 % à 40 % à 100 % Est-ce qu'on va commencer à jouer avec le système fiscal pour prévoir toutes les nouvelles réalités qui sont plus généralisées qu'avant? Ça va être super intéressant, mais c'est vrai que dans tout domaine, c'est une question d'offre-demande. Si tu m'offres des avantages qualitatifs, je finis par les quantifier en dollars. Et penser que l'arbitrage actuel lié au fait que je t'envoie chez vous, je te garde le même salaire et tu n'as plus les mêmes conditions, va se maintenir à long terme, ça va dépendre de la capacité de l'entreprise à attirer des gens. Mais si elle peut attirer des gens à moindre coût, elle va le faire parce que l'entreprise est un revenu. Ce sont des revenus et des dépenses. C'est ça une entreprise, tu comprends?
Pour l'immobilier, on n'aura pas beaucoup de temps, là, mais tu proposes quoi? Trois questions à poser en 2021?
Rapidement. Un, si vous pensez être un investisseur dans le secteur semi-commercial, sur les artères commerciales, est-ce qu'il y aura la même valeur? Parce que là, c'est le secteur qui est un peu, disons, dubitatif, parce qu'il y a des commerces de proximité au premier étage qui sont parfois des restaurants ou des boutiques qui ont été fortement marqués par la COVID. Et donc, on voit beaucoup d'immeubles se vendre sur le marché semi-commerciaux ou être offerts sur le marché. Deuxième question, est-ce que le secteur que vous êtes en train de viser comme investisseur fait partie d'une bulle immobilière ou d'une dévaluation temporaire? Et ça, c'est un pari que vous êtes en train de prendre. Si vous dites « le centre-ville va être délaissé », c'est un pari. Si vous dites « oh, les banlieues vont prendre beaucoup de valeur et les chalets aussi », c'est un autre pari. Et la troisième question, c'est « avec les taux d'intérêt qui sont si bas aujourd'hui, Paul, sommes-nous dans une période où le non-investissement immobilier est aussi une réflexion à avoir? » C'est-à-dire, si les gens actuellement peuvent acheter de l'immobilier 5 ans fixe fermé à moins de 1,75%, ça veut dire que dans le futur, la capacité d'emprunt qui augmente grâce à la baisse des taux d'intérêt ne pourra plus être un argument parce qu'on est dans des taux planchers. Et donc, présentement, si vous achetez, vous prenez le risque d'un marché en ébullition, vous prenez le risque de payer un taux d'intérêt plus élevé sur 25 ans, vous prenez le risque d'augmenter votre ratio d'endettement et vous ne savez pas quelle sera la conjoncture économique autour de vos actifs parce que le monde est en évolution. Donc, les non-investisseurs ou ceux qui sortent du marché présentement sont en train de faire une gestion de risque. Et ceux qui entrent prennent un risque, évidemment.
C'est le matin des grands changements.
Oui, je vais aller faire mon télétravail.
C'est ça. Merci, Pierre-Yves. Salut. 7h22.